Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.
Eh bien justement, on accueille une pionnière. En tout cas, je pense que je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux à se dire qu'en matière de durable, d'environnement, d'écologie, c'est une pionnière, ancienne ministre de l'Environnement, avocate, toujours à la tête de Cap 21. Corinne Lepage, bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver.
Ben, écoutez, c'est réciproque en tout cas. On ne s'était pas parlé depuis un petit temps, mais on ne va pas tout dévoiler sur notre vie privée, si je puis dire. Bon, on a plein de choses à se dire, Corinne Lepage, évidemment. On peut peut-être rappeler, juste avant de continuer cette interview, Construction 21, c'est cette plateforme web que l'on connaît bien sur Radio Immo, plateforme web d'information sur la ville durable, le développement durable, les nouvelles façons de construire et de rénover, 150 pionniers du secteur Construction 21 qui donnent la parole aux chefs d'entreprise et à des personnalités qui ont mis cette question de la ville durable au cœur de leur engagement pour que l'on ait bien tout en tête. Alors, tout d'abord, on se souvient évidemment et on se rappelle de vous quand on interroge les Français par rapport à vos combats historiques auprès des collectivités locales dans des affaires très importantes. Le naufrage de la Moco Cadiz, bien sûr, le pétrolier Erika. Vous avez défendu également les victimes des inondations de la Faute-sur-Mer à la suite de la tempête Xynthia. Première question très personnelle. Ce sont des affaires qui vous ont, comment dire, qui vous ont marqué à vie en tant qu'avocate et en tant que femme ?
Oui, très certainement, ce sont des affaires qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont conforté dans l'idée qui est aujourd'hui de plus en plus partagée que le droit est un outil de transformation de la société extrêmement important, et peut-être plus encore aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Quand on voit le développement que prend au niveau international ce qu'on appelle aujourd'hui la justice climatique, 1500 procès dans le monde, j'ai gagné la première étape de grande sainte devant le Conseil d'État il y a deux mois, arrêt qualifié de tsunami juridique, où qu'on voit les affaires de justice sanitaire, on se rend compte que le levier du droit au niveau planétaire est devenu quelque chose de peut-être plus efficient que le levier politique.
Bon, alors on parlait de Grande Sainte, justement, vous en parliez. Grande Sainte qui attaquait le gouvernement qui a été débouté par le Conseil d'État, et la ville avait contesté le plan climatique du gouvernement à l'époque.
Alors, il y a deux choses. La ville a gagné, la première étape, c'est faire reconnaître l'insuffisance des mesures prises pour lutter contre le dérèglement climatique. Là-dessus, on a gagné. La ville a également attaqué le plan national d'adaptation au dérèglement climatique qui intéresse peut-être plus largement notre sujet de la ville durable.
Oui.
Et elle l'avait attaqué en disant que c'était un plan qui était vide, qui n'avait pas de moyens matériels, qui n'avait rien de contraignant, que c'était des incitations et encore. Et le Conseil d'État dit oui, c'est vrai, mais il n'y a aucune disposition dans la loi qui oblige à mettre quoi que ce soit dans ce plan. Donc il n'y a rien dans le plan, mais c'est légal, puisqu'il n'y a aucune obligation en ce sens. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la France n'a pas de réglementation sérieuse sur l'adaptation des règlements climatiques et qu'elle a un plan qui est complètement creux.
Alors, on va évidemment évoquer tout ça parce que l'État et le Président se sont beaucoup appuyés sur la Convention citoyenne sur le climat et ses résultats. La volonté, par exemple, d'inscrire la préservation de l'environnement dans la Constitution. Juste en deux mots, ça c'est plutôt une bonne chose ou ça va encore pas assez loin ? Il y a un truc qui ne va pas.
C'est un progrès, mais qui peut aller à une échelle très vaste selon la manière dont tout cela sera rédigé à la fin. Le texte aujourd'hui dit « La France garantit la lutte contre le dérèglement climatique, la protection de la biodiversité ». C'est très bien, à condition que le mot « garantie » reste, parce que si c'est simplement « favorise » ou « encourage », ça sert strictement à rien. Et la préservation de l'environnement, c'est ça le troisième point. Préservation de l'environnement, c'est bien, mais c'est pas assez. La charte de l'environnement dit « préservation et amélioration ». Donc la rédaction qui est choisie aujourd'hui est en réduction par rapport à la charte de l'environnement qui allait plus loin. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une échelle très souple, très large, d'efficacité selon la manière dont tout cela sera rédigé à la fin.
Il faut faire très attention et être extrêmement vigilant, effectivement. Alors dites-moi justement, Corinne Lepage, les combats que vous menez, en particulier sur la ville durable, comment le droit permet de faire évoluer, si je puis dire, ces questions-là, aujourd'hui?
Bien, si vous voulez, il intervient de trois manières. La première, c'est en supprimant tout ce qui pourrait être des obstacles. Par exemple, pendant plusieurs années, vous savez que la France n'est pas de loin pas une championne en énergie renouvelable, on a beaucoup bloqué tout ce qui était énergie renouvelable dans la construction au motif que c'était pas beau, ou que ça s'intégrait pas bien dans le paysage, etc. Donc il a fallu lever ce type d'obstacle-là. Deuxièmement, en ayant des dispositions qui exigent des constructeurs un certain nombre de règles. Ça va être le cas avec la RE 2020 qui est en train de sortir. C'est le cas avec...
le DPE aussi, la nouvelle génération, si je puis dire, qui va un peu modifier les choses.
La nouvelle génération de DPE, bien sûr. C'est aussi le cas maintenant avec le reuse appliqué aux matériaux du bâtiment, une nouvelle conception de la construction qui est conçue comme pouvant être démoli et réutilisé, ce qui est quand même quelque chose de tout à fait nouveau quand on pense à l'immobilier. Donc ça, c'est des règles, je dirais, qui vont s'imposer aux constructeurs. Et puis, troisièmement, dans l'incitation et tous les systèmes économiques, financiers et fiscaux qui peuvent conduire à favoriser la ville durable au détriment d'une ville non durable.
Est-ce que, par exemple, tiens, puisqu'on parle du DPE, c'est l'actualité, il y a ces nouvelles règles qui rentre dans le DPE à partir du 1er juillet prochain, et notamment le fait que les gaz à effet de serre qui sont produits par un logement entrent en ligne de compte. Oui. Est-ce que ça, c'est important pour vous?
C'est extrêmement important. Alors, on fait les choses, et c'est bien, de manière progressive. C'est-à-dire que le chapitre économie d'énergie et le chapitre gaz à effet de serre n'est pas traité exactement de la même manière. Mais l'idée d'introduire le bilan carbone d'un bâtiment est quelque chose de très important. Je rappellerai que la Commission européenne a monté les objectifs européens de 35 à 55% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030. 2030, c'est demain matin. Cela veut dire que ce n'est atteignable que pour autant que nous modifions tous et dans tous les domaines, que ce soit l'immobilier, le transport, l'agriculture, la production de l'énergie, bien sûr, nos habitudes. Et compte tenu de l'importance que représente l'immobilier en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il est très important, bien sûr, que le concept d'empreinte carbone du bâtiment et du logement arrive comme étant une évidence au même titre que la performance énergétique du bâtiment.
Corinne Lepage, à travers Construction 21, je crois savoir que vous avez l'intention de contribuer à Construction 21 et de manière intellectuelle, quoi, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer justement à travers Construction 21 et cette plateforme web formidable?
D'abord, j'ai une vieille amitié avec Christian Brodag, ça ne date pas tout à fait d'hier. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir contribuer à Construction 21, qui est un concept que je trouve extrêmement intelligent et performant. Bon, pour ma part, j'apporterai ce que je sais faire, c'est-à-dire une vision à la fois d'une certaine expérience, mais aussi de la manière dont le droit peut aider et peut contribuer de manière constante et de manière concrète à l'amélioration des performances, à rendre les choses possibles. Il faut bien comprendre qu'il ne peut y avoir de transition écologique pour nous tous, pour tous nos concitoyens, que pour autant que ce soit possible. Quand je dis possible, c'est-à-dire possible juridiquement et possible financièrement. C'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions qui soient accessibles.
Mais la ville durable a quand même un bel avenir devant elle, là, pour le coup.
Ben écoutez, il faut le souhaiter parce qu'elle sera durable ou elle ne sera pas. Je veux dire par là que Nous sommes confrontés à une situation que nos prédécesseurs n'ont absolument pas connue. Nous avons globalement 10 ans là pour changer les choses. On sait très bien que dans les 10 ans qui viennent, l'histoire est écrite. Et quoi qu'on fasse maintenant, ça ne va pas changer une tonne de CO2 jusqu'à 2030. Par contre, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'en 2050, ça aille bien ou qu'au contraire, ça aille très mal. Voilà. Et c'est ça l'enjeu. Et c'est un enjeu à la fois collectif, bien sûr, parce que chacun d'entre nous n'a que des moyens très limités, mais aussi individuel. Parce que nous le faisons pas forcément pour nous. Moi, je le fais pour mes petits-enfants. En 2050, je ne serai plus là. Mes petits-enfants et mes enfants, peut-être, seront encore là.
Ouais. Merci beaucoup, Corinne Lepage, pour ces quelques mots. Merci d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous avec nos amis de Construction 21 sur Radio Immo.
Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.